Vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 67e numéro de Force 7, le plan de relance a favorisé le déploiement d'outils numériques à destination des écoliers de Sisteron, le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. Des jeunes ont participé à des chantiers coordonnés par l'ADSEA à Digne et une conciergerie offre ses services à des personnes isolées. Odile Frison est allée à leur rencontre. Devant la flambée des prix, la ville de Manosque veut économiser l'énergie. L'interview de Camille Galtier pour Force 7. Digne accueillera les assises de l'économie sociale et solidaire le 24 novembre, une première qui est organisée par la CRES PACA et l'agglomération dinoise. Des précisions dans un instant. Plus que deux jours pour admirer l'univers des santons à Gréoux, sa foire aux santons est un préambule à la période de Noël. Nous entendrons Marie Tardif à la fin de ce magazine. Un futur numérique pour les écoles de Sisteron.
C'est à l'école de Verdun, dans les classes de CE1, CM2, que Daniel Spagnou, maire de Sisteron, s'est rendu dernièrement pour assister à la présentation des ensembles interactifs de vidéoprojections qui vont équiper chacune des 22 classes des écoles élémentaires, du CP au CM2. Ainsi, plus de 400 écoliers vont pouvoir profiter de cette avancée numérique. Aux côtés de Pierre Bucher, inspecteur de la circonscription de Sisteron, et de Lynn Fontanini-Nguyen, enseignante et référente aux usages numériques de la circonscription, le maire a assisté à une démonstration probante. Le numérique révolutionne de façon très ludique le travail des enseignants et des élèves dans l'apprentissage de l'écriture, du calcul ou de la lecture, et ce, en lien avec les parents grâce à un cahier de texte numérique disponible via une application téléchargeable. Une révolution technologique que la ville de Sisteron était heureuse d'offrir à ses écoliers et leurs enseignants dans le cadre du plan de relance de l'État pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Au micro de Chris Alessandri, les réactions de Pierre Bucher, Lynn Fontanini-Nguyen et Daniel Spagnou.
Alors moi, Pierre Bucher, je suis inspecteur de l'éducation nationale pour la circonscription de Sisteron, donc pour la commune et pour tout le territoire. Et dans ce cas précis, j'accompagne donc la mise en œuvre du plan numérique avec l'équipement dans toutes les classes des écoles de Sisteron et l'accompagnement des professeurs pour la formation à l'exploitation, l'utilisation de ces outils numériques.
Pierre Bucher, c'est tout un réseau qui a été vraiment mis en place, toute une stratégie pour développer ce principe.
Oui, je crois que c'est exactement ça. Il fallait une stratégie et puis il fallait une volonté. La stratégie, c'est de permettre à tous d'avoir accès à ces outils parce que c'est l'avenir, ce sont les outils de demain qu'il faudra savoir composer, utiliser, exploiter. Et puis c'est un accompagnement. Donc cette stratégie, il fallait aussi prévoir que l'exploitation de ces outils se fasse réellement et se fasse sur la durée. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire ici.
Votre réaction face à la vivacité des élèves qu'on a vu travailler tout à l'heure ?
Ils ont l'air à l'aise. Ils ne sont pas surpris. On dirait qu'ils sont nés avec, quoi. Moi, je découvre un petit peu le matériel. Je suis content d'avoir des outils aussi performants. Mais pour eux, on dirait que voilà, c'est un peu normal. Donc tant mieux. Hein. Je veux dire, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui utilisent ces outils. Mais c'est bien de voir qu'ici, on les a. Mais on ne les a peut-être pas partout. Mais c'est ce qu'il faut s'efforcer de faire, quoi. Permettre à tous un égal accès à ces outils numériques.
Pour mettre en place tous ces outils numériques, derrière tout ça, il y a toute une chaîne également qui est complètement imbriquée. Vous avez des informations qui passent entre vous, vous passez ensuite à la pratique.
Oui, alors on a des informations qui passent entre nous, on a aussi des supports. On a Canopé qui est une plateforme d'outillage et et de ressources pédagogiques qui nous permettent effectivement d'avoir un appui et un accompagnement sur le territoire. Et puis on a, comme je vous le disais, des enseignants extrêmement compétents, qualifiés, que sont les EREN, donc les enseignants référents aux usages numériques, qui eux, tout au long de la mise en œuvre de ce projet, accompagnent, rédigent et trouvent les moyens de faire fonctionner ces outils pour que les enseignants, quand ils arrivent dans la classe, eh bien, ça fonctionne et que ce soit au mieux, quoi.
L'école de demain se construit aujourd'hui ?
Ouais, l'école de demain se construit maintenant, je crois. Il faut se projeter, il faut se dire, c'est quoi un enfant dans 10 ans ? Qu'est-ce qu'il aura besoin ? Voilà. Et quand on est dans la classe, qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans ? Et je crois qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Les outils numériques, il faut qu'ils y aient tous accès.
Lynn Fontanini Nguyen, enseignante référente, c'est toute une mission qui vous est confiée et pas des plus faciles parce que là vous allez fédérer autour de vous.
Alors ce qui est intéressant, c'est que les enseignants sont très dynamiques et sont très volontaires sur la question du numérique et donc ils ont très envie. Et cette motivation, ça sert vraiment de point d'appui à mon travail et je suis plutôt dans l'accompagnement de cette dynamique plutôt que dans la réelle formation, c'est-à-dire en partant d'une base et à essayer vraiment d'aller dans des usages qui ne seraient pas naturels. En s'appuyant sur la motivation, on va beaucoup plus loin.
Quels sont les outils que vous avez donc apportés, que vous avez présentés aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, on a présenté donc un vidéoprojecteur interactif qui permet aux élèves d'avoir, en plus de la vidéoprojection, c'est-à-dire d'afficher ce qu'il y a sur un ordinateur, l'aspect interactif qui est très intéressant puisque au-delà de l'usage du maître et de la simple craie, on va pouvoir déplacer des étiquettes sur le tableau, on va pouvoir faire utiliser cette technologie aux enfants qui vont même pouvoir écrire en cursive et l'étiquette va se changer directement en script, donc avoir un support imprimable, la leçon est directement imprimée à la fin de l'heure de travail et donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a aussi la question de la tablette, on a une tablette numérique, ça c'est intéressant pour surtout l'apport créatif pour les élèves, multimédia, les photos, les vidéos, etc., la mise en valeur de tous les projets d'école, ça c'est vraiment un aspect qui me tient à cœur. Et bien sûr, l'ordinateur portable, la visualiseuse qui permet de faire de n'importe quel livre un livre numérique puisqu'on peut le projeter, mais aussi la tablette. Et donc tous ces outils-là, ils permettent vraiment de mettre en valeur le travail qui est déjà fait dans les classes. Ils permettent aussi qu'ils prennent une autre dimension.
Il y a tout ce côté ludique, interactif, avec des principes quand même auxquels on n'est pas habitué. Ces parachutes qui tombent à plus ou moins grande vitesse et il faut très vite réagir.
Oui, tout à fait. Et les élèves adorent jouer et on profite de cette motivation-là pour les entraîner vers des apprentissages qui sont un petit peu moins ludiques. Donc là, par exemple, le calcul mental, c'est vrai qu'apprendre ces tables, que ce soit des tables d'addition ou des tables de multiplication, c'est pas les choses les plus simples qu'on a à faire pour les élèves. Mais avec, grâce à ces jeux et grâce à ces outils, là, on arrive à redynamiser des apprentissages qui sont compliqués.
Vous êtes une professionnelle de l'enseignement. Est-ce que l'attitude des jeunes élèves vous surprend ?
Non. Je suis tout à fait heureuse de les voir. Ils ont déjà intégré la culture du numérique à la maison. Parfois même, ils sont en avance sur nous. C'est compliqué à gérer. Mais c'est très intéressant, justement, de pouvoir aussi s'appuyer sur cette dynamique-là. Ça nous donne des outils supplémentaires pour rendre intéressant des apprentissages quand ils sont à bout de souffle pour certains élèves. Je pense notamment aux élèves en difficulté ou aux élèves porteurs de handicap. Eh bien, ces outils-là vont être très, très précieux avec ces enfants-là.
Daniel Spagnou, vous avez non seulement apprécié, mais vu toute une évolution dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration ? Je vous ai vu regarder ces élèves lever la main et répondre très rapidement avec une certaine admiration.
Ah ben écoutez, c'est une autre génération parce que nous, enfin moi, à l'âge que j'ai, bien sûr, moi j'ai le souvenir du tableau noir qu'on effaçait avec de la craie. On s'en mettait d'ailleurs plein le visage, on en avait de partout. Mais c'était une autre époque. Et là, on a bien vu que les gamins, ils naissent maintenant dans l'informatique, ils naissent dans Internet. Ils naissent dans le numérique, eux. Si nous, on avait du mal à comprendre le nouveau système, vous avez vu qu'eux, ils ont vite compris. Donc, c'est le progrès. Ils sont beaucoup plus éveillés qu'avant. Il paraît que ça leur permet de faire des progrès. Et puis, ça aide surtout beaucoup les enseignants parce qu'ils gagnent du temps. Et ça leur permet de passer plus de temps sur certaines disciplines qu'avant. Donc, je pense que c'est un beau progrès. Et bon, maintenant, les 22 classes sont équipées. Et la prochaine aventure, ce sera les grandes sections de l'école maternelle.
Une projection vers l'avenir, Daniel Spagnou, que vous suivez très attentivement.
Ah ben bien sûr, et puis c'est à partir des écoles qu'on construit l'avenir et qu'on construit la France de demain. Et la France de demain, elle sera numérique dans tous les domaines. On le voit bien, et nous, les anciens, on va être vite dépassés. Mais je crois que notre devoir à nous, maires, c'est d'équiper toutes les écoles chaque fois qu'on le peut. Là, on a saisi l'occasion puisque le plan de relance éducation nationale nous avait contactés et nous avons tout de suite dit oui, on va jouer le jeu, on mettra l'argent qu'il faut, donc à peu près 100 000 euros. Donc 40 000 euros à charge de la commune, 60 000 euros à charge de l'éducation nationale, mais il ne faut pas oublier quand même, vous avez vu, les employés communaux ont fait un travail énorme. On n'est pas passé par une entreprise privée. On a fait travailler nos services électriciens, nos services numériques. C'est ce qui nous a permis de ne dépenser que 40 000 euros, parce qu'on n'a pas compté, bien sûr, leur travail à eux. Ils ont travaillé pendant des mois. Voilà. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une belle journée pour les enfants de Sisteron.
Des jeunes motivés améliorent le cadre de vie d'Innois.
Deria, Camille et Chérine ont participé au chantier éducatif mis en place par l'ADSEA 04 pour repeindre les barrières de la gendarmerie. Salim, 17 ans, lui, était sur une autre opération de la ville. Ensemble, ils témoignent de cette expérience au micro d'Odile Frison. Nous entendrons aussi Pierre Sanchez, maire adjoint à la ville de Digne-les-Bains, et enfin Céline Dalmas de l'association Elle à propos de services ponctuels et utiles à prix réduit pour des personnes isolées. Depuis quelques mois, la création de la conciergerie est née d'une réflexion entre Marie-Laure Kergadalan pour le CCAS de la ville de Digne et Hugues Guillory de la Ligue de l'enseignement 04 afin d'adopter un modèle qui fonctionne à Grasse et qui est expérimenté actuellement jusqu'en décembre. Céline Dalmas présente ses services à prix réduit pour venir en aide aux personnes isolées.
Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce chantier aujourd'hui ?
L'égalité homme-femme, et qu'on est tous égaux, qu'il n'y a pas que les hommes peuvent faire ça et que les femmes ne peuvent pas, et que les femmes peuvent et que les hommes ne peuvent pas.
Donc il n'y a pas de métier réservé aux hommes et d'autres aux femmes ?
Non, du tout.
Vous avez quel âge ?
16.
Et vous ?
Ben, les hommes et les femmes ils peuvent faire les mêmes travaux. Et on a mieux travaillé que les garçons.
C'est ça. Comment vous avez vécu ce chantier alors ?
C'était trop bien.
Est-ce que vous avez envie de faire un métier dans le bâtiment ?
Non, pas du tout.
Voilà, ça c'est clair. Et vous ?
Oui.
Oui.
Vous parliez tout à l'heure que certains vous disent que vous n'avez pas le droit de travailler dans le bâtiment. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Moi j'ai demandé à un stage en bâtiment, travaux publics, ils m'ont dit non, que c'est que les femmes, ils n'étaient pas assez... expérimenté pour faire ça.
Et alors, ici, un jeune homme, vous avez participé à un autre chantier.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'était une belle expérience. On s'est tous amusés. On a bien travaillé et c'était chouette.
Et vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 17 ans.
Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Personnellement, ça me permet de financer mon code, et mon permis et tout. Et après, voilà, j'ai acheté des trucs pour m'amuser et tout.
Donc, c'est le côté intéressant, c'est que vous gagnez de l'argent, évidemment.
Ouais, mais après, le travail, il est bien aussi. Peinture, moi, j'aime bien. Donc, il n'y a pas que pour les sous aussi. Au moins, on apprend du savoir-faire et c'est cool.
Et le fait de participer à enjoliver la ville, c'est important pour vous ?
Oui, c'est très important.
Pour l'égalité
homme-femme, Salim.
Ben oui, tout le monde peut faire les mêmes métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde fait ce qu'il veut, tant qu'il travaille bien.
Pierre Sanchez, maire adjoint à la ville, et je représente Patricia Granet, maire de la ville de Digne. Donc, ce chantier éducatif, ben vous savez que depuis de nombreuses années, plus de 8 ans, nos organisations en partenariat avec l'association ATSEA et l'association Elle, notamment pour les contrats de travail. Ces chantiers éducatifs ont pour objectif, bien sûr, de mettre en valeur nos jeunes de la ville de Digne. Donc, ce sont des jeunes qui sont présentés par l'ATSEA. Cette année, sur la ville de Digne, nous avons établi 3 chantiers éducatifs. Donc 2 chantiers sur la gendarmerie et 1 chantier sur le city-stade des Pigeonniers. L'objectif de ces chantiers éducatifs, c'est bien sûr d'approcher les jeunes au monde du travail, notamment puisque ce sont des chantiers qui se réalisent à peu près sur 5 jours de travail. Donc la ville est très partie prenante de cette démarche. La mise en valeur par l'ATSEA de ces jeunes est très importante. L'association, elle, qui crée les contrats de travail. Et je crois que la motivation et l'implication de ces jeunes permettent justement d'améliorer le cadre de vie de la ville de Digne et surtout de mettre en valeur la jeunesse de notre ville.
Ils sont rémunérés par la ville ?
Ils sont rémunérés par la ville par des contrats de travail donc établis par l'association Elle, qui construit les contrats de travail, qui fait le suivi, je crois, au niveau de la médecine du travail et éventuellement de toute la partie administrative concernant les contrats de travail.
Est-ce qu'on peut savoir comment ils sont sélectionnés? Est-ce que ce sont des jeunes volontaires?
La sélection alors, se fait par le biais de la CA, bien sûr, et ce sont des jeunes qui sont bien sûr proposés et volontaires. Il est important de dire que la ville de Digne met à la disposition Stéphane Niego et Karine Chabanne, qui accompagnent aussi ces jeunes en partenariat avec l'équipe de prévention spécialisée de la CA.
Céline Dalmas, je suis chargée de développement et d'insertion de l'association Elle. Donc Elle est l'association intermédiaire de la Ligue de l'enseignement. Nous venons d'ouvrir une agence d'emploi solidaire 10 places du marché à Digne-les-Bains où nous recevons les demandeurs d'emploi un petit peu éloignés de l'emploi et nous essayons de leur trouver des missions de mise à disposition. Nous avons avec eux un accompagnement pendant 24 mois où notre travail est de lever les freins à l'emploi, de travailler avec eux sur leur recherche d'emploi, sur leur confiance en eux aussi, on peut parler de ça, et surtout sur des partenariats autour de leur recherche d'emploi en formation. On cherche des partenaires pour pouvoir donner de l'emploi, les collectivités notamment. Là, en ce moment, on a 4 personnes sur des chantiers BTP aussi, en lien avec le bailleur H2P. C'est un marché public. Voilà, on est en demande de travail pour ces personnes. Et puis, nous les accueillons avec plaisir à l'agence. Et nous menons une expérimentation en lien avec la préfecture et l'agglomération sur une conciergerie de centre-ville et autour du quartier politique de la ville pour des petits services à la demi-heure pour les gens qui ont besoin d'une petite aide, manutention, ranger du bois, réparer une douille, poser un verrou sur une porte, porter une bouteille de gaz. Voilà, c'est des missions qu'on a eu à faire. Et cette expérimentation, elle est encore en cours jusqu'au mois de décembre. Et puis ensuite, nous évaluerons avec nos partenaires si il est opportun de continuer. Donc voilà, en ce moment, si vous avez besoin d'un coup de main, on est encore là. Et puis, si ce besoin est réel, ça crée de l'emploi et ça permet d'aider les personnes isolées et d'améliorer la qualité de vie sur Digne-les-Bains. On peut aussi faire des petites courses. On peut aussi faire des petites livraisons sans véhicule, par contre. Hein.
Et c'est situé où?
Alors, toujours 10 places du marché. C'est la conciergerie de centre-ville.
Qui a été ouverte depuis quand?
Alors, la conciergerie, elle est ouverte depuis le avril-mai, le temps qu'elle soit opérationnelle. Traditionnellement, on ne faisait pas des petits services, on faisait plutôt des services de 2 heures, 3 heures. Et là, on essaye d'apporter un service sur des plus courtes durées et on recense les besoins de la population sur ces services-là, d'une demi-heure à une heure, qui peuvent vraiment bien dépanner quand même.
Donc des services à la population qui sont facturés?
Alors, c'est facturé actuellement 11 euros la demi-heure. C'est un prix réduit par rapport à notre tarif habituel, qui est un petit peu plus élevé. Mais dans le cadre de cette expérimentation et grâce au soutien de nos partenaires, on est sur un tarif plus bas.
La ville de Manosque veut économiser l'énergie.
Devant la flambée des prix de l'énergie, chacun d'entre nous est forcé de maîtriser et économiser ses consommations de fioul, d'électricité ou de gaz. Et Manosque a déjà constaté la hausse des dépenses énergétiques. Aussi, Camille Galtier et son équipe se mobilisent pour limiter la consommation des structures et services municipaux. Une saison de chauffe réduite de novembre à mi-mars et 19 degrés dans les locaux, des horaires plus courts, coupure des réseaux Wi-Fi internes la nuit et les week-ends, extinction de tous les ordinateurs à 21h, voilà quelques mesures décidées par la municipalité. En favorisant les éco-gestes de chaque agent, la ville s'est penchée également sur les consommations d'énergie dans les écoles, les crèches, les équipements sportifs ou encore la piscine de la Rochette. Au programme aussi, la réduction du parc automobile et une meilleure répartition des véhicules, qui passe aussi par l'achat de véhicules électriques style Citroën Ami au lieu de voitures à essence. Et à plus long terme, la rénovation des écoles et des bâtiments municipaux s'accompagnera obligatoirement d'un volet énergétique. 3 élus sont chargés de suivre ces dossiers, Véronique Chosnaki et Sylvie Nicolet ainsi que Laurent Garcia. Prenant un effort de tous, le maire a rappelé son objectif de ne pas augmenter les impôts locaux malgré les hausses de tarifs de l'énergie, les dotations de l'État en baisse ou l'augmentation récente de 3,5% du traitement des fonctionnaires. Je vous propose d'écouter Camille Galtier, maire de Manosque, sur les mesures prises et à venir pour économiser l'énergie. Camille Galtier, la ville de Manosque est contrainte à la sobriété.
Sobriété économique, sobriété énergétique évidemment, puisque les deux sont intimement liés en cette période dramatique au niveau international, avec des conséquences fâcheuses pour les collectivités, pour les contribuables également. Donc la ville de Manosque se met de manière plus intense encore que ce qu'elle faisait auparavant sur le volet sobriété énergétique, en effet.
Dans quel domaine vous allez faire des économies ?
Alors, il nous faut faire des économies partout. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de petites économies. C'est ce que nous avons fait depuis 2020 sur le volet RH, sur le volet des marchés publics aussi, en renégociant un certain nombre, que ce soit en dépenses ou en recettes. Mais là, il faut qu'on aille plus loin sur notamment ce que je dis souvent, ce qui est utile et ce qui est nécessaire en se prévalant plutôt de nos missions d'intérêt général, de ce qui nous importe, c'est-à-dire nos écoles, nos crèches et nos infrastructures sportives, et en limitant le reste, c'est-à-dire notamment un certain nombre de bâtiments qui aujourd'hui sont soit inutilisés, soit peu utilisés, soit dans des états de rénovation trop importantes pour que ça soit la collectivité qui le porte et que donc on choisira une vente pure et simple.
Avec par exemple aussi l'augmentation de l'indice pour les fonctionnaires, ça vous l'avez pris de plein fouet.
Il faut déjà être néanmoins satisfait pour les fonctionnaires qui ont eu cette augmentation et un dégel du point qui n'était plus arrivé depuis 2012. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important à mettre en place. Après 3,5% alors qu'on nous annonçait plutôt 2% d'augmentation, évidemment ça a des conséquences importantes sur le budget de la collectivité puisque nous parlons en année pleine de 700 000 euros d'écart. Donc il faudra là aussi être assez ingénieux sur la marche à suivre. En tout cas, cela confirme ma vision de 2020. Il faut moins d'employés municipaux à la ville de Manosque, mais il faut des employés municipaux mieux payés et mieux formés. C'est une évidence, je le crois encore plus aujourd'hui qu'en 2020, donc c'est la marche que j'ai donnée à l'ensemble de mes directeurs.
Pour ces économies, vous avez nommé une task force au sein de votre municipalité avec trois élus.
Trois élus délégués qui rendront compte à moi-même en direct, en lien avec les services, pour faire les économies, la chasse aux dépenses inutiles ou aux dépenses peu utiles, je serais tenté de dire. Donc aussi bien sur le volet bâtiment, sur le volet des véhicules automobiles et bien évidemment sur la question des bâtiments à rénover, puisqu'on nous en avons un certain nombre. Et il y aura notamment aussi la question du plan école que nous avons lancé et dont les premiers travaux débuteront en 2023 sur l'école des plantiers.
Une école qui sera en basse consommation.
En basse consommation et surtout de permettre le bien-être à la fois des enfants et à la fois du personnel, qu'il soit éducation nationale ou municipale, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les écoles de Manosque. Je l'ai toujours dit, il n'y avait peut-être pas un passif bancaire au sein de la ville de Manosque, mais il y avait un passif bâtimentaire. Et les écoles de Manosque en sont le plus bel exemple, et j'ai envie de dire, le plus bel exemple de manière dramatique.
Dernier élément, l'élu en charge des finances, Pascal Antic, l'a dit, faire un budget comme actuellement, c'est être dans le brouillard.
C'est d'être dans le brouillard, c'est acter tous les leviers à notre disposition, tous les outils dont on dispose. Et malheureusement, c'est vrai que la lisibilité est toujours compliquée avec le gouvernement qui, lui, vote le projet de loi des finances en octobre ou en novembre. Et nous devons derrière faire nos budgets, mais avec très peu de visibilité, comme je l'ai dit durant la conférence de presse. Et il y a quelques mois en arrière, il fallait tout passer en gaz. Aujourd'hui, heureusement que les travaux ont pris du retard et qu'on n'a pas pu installer ces chaudières au gaz, parce que ça aurait été dramatique pour les finances de la ville. Donc voilà, il y a tout ce sujet-là, et c'est vrai qu'on a l'impression de jouer une partie de cartes en changeant les jeux constamment.
L'ESS tient ses assises à Digne.
Secteur important, un salarié du privé sur cinq en région, l'économie sociale et solidaire a sa chambre régionale à Marseille. Dans les Alpes de Haute-Provence, une délégation départementale a été créée récemment et qui est aux manettes pour ses premières assises de l'ESS. Grâce au soutien fort de la ville de Digne et de Provence-Alpes Agglomération ainsi que plusieurs partenaires institutionnels, le Palais des Congrès se transformera en ruche de l'ESS le 24 novembre. Associations, coopératives, mutuelles et fondations se rencontreront et présenteront leurs structures au public, porteurs de projets, demandeurs d'emploi, jeunes, mais aussi les collectivités locales sont invitées par les acteurs d'un secteur en plein développement. Les domaines du social et de la solidarité, de la culture, de l'initiative économique ou encore du sport offrent une palette de ressources et d'activités que les responsables veulent promouvoir. Novembre est le mois de l'économie sociale et solidaire, une opération aujourd'hui nationale mais qui est née en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2003. Vitrine des actions et projets du secteur, ces 30 jours rendent lisible le rôle des entreprises de cette économie qui ne délocalise pas car elles s'inscrivent pleinement dans les territoires. Le président de la délégation 04 de la CRESPACA, Jérôme Martinez, donne rendez-vous pour ces assises économiques, sociales et solidaires. Jérôme Martinez, vous êtes le président départemental de la CRESPACA. Qu'est-ce que c'est que la CRES ?
CRES, acronyme Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe, je dirais, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à savoir les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, des sociétés commerciales qui ont un but à utilité sociale, qui ont un agrément ESUS. Donc voilà, c'est la grande famille des entreprises de l'ESS et c'est effectivement le mouvement qui est représenté par la CRES, une seule voix pour représenter l'ensemble de ces structures.
Et une représentation désormais départementale dans les Alpes d'Haute-Provence.
Tout à fait. Dans la feuille de route de la CRESPACA, il y avait l'importance de la départementalisation de la CRES sur les territoires au plus près, à proximité de ses adhérents. Le 04 s'est constitué récemment avec un bureau qui représente l'ensemble des entreprises de l'ESS dans différents domaines d'activité. Voilà pourquoi nous sommes heureux de pouvoir bientôt proposer à proximité un événement majeur dans le département qui s'appelle les Assises de l'ESS qui auront lieu le 24 novembre prochain.
Quel est l'objectif de ces Assises ?
Les Assises de l'ESS sont là pour permettre aux entreprises de l'ESS de mieux se connaître, mais c'est aussi l'occasion de valoriser toutes leurs initiatives remarquables pour répondre, je dirais, aux besoins sociaux, pour répondre effectivement aux personnes les plus précaires, les plus fragiles, pour répondre aussi à des enjeux autour du développement durable. Nous avons vraiment besoin aussi de ces Assises pour lancer, comme je le disais à l'instant, et asseoir la légitimité de la CRES 04. Donc pour nous, c'est un événement inédit et une formidable opportunité pour être reconnu et connaître tout ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire sur notre territoire.
Vous avez plusieurs domaines d'activité qui seront représentés.
Tout à fait. On a tendance à dire que 55% des emplois de l'économie sociale et solidaire sont des emplois qui sont relatifs à l'action sociale. Mais tous les domaines d'activité sont présents. La finance, la santé, le tourisme, la formation, l'éducation. Tous les secteurs d'activité sont représentés au sein de l'économie sociale et solidaire.
Quel est le public que vous visez ?
Alors le public est très large parce que dans les Assises de l'ESS, nous aurons une première séquence jusqu'à 11h où des rendez-vous d'entreprises sont organisés et dès 11h, ça sera ouvert au grand public. C'est-à-dire qu'en plus des entrepreneurs, des dirigeants, des salariés d'entreprises de l'ESS du 04, nous attendons les porteurs de projets du 04, les élus locaux, les lycéens, étudiants qui s'intéressent de près, soit en curieux, soit déjà en expert ou intéressé à tout ce qu'apporte l'ESS. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un public, parce que n'oublions pas que nous avons besoin de continuer à nous développer, qui est important, c'est les personnes en recherche d'emploi. Voilà un petit peu l'ensemble des rencontres que nous envisageons avec, nous l'espérons, un nombreux public.
Vous avez des soutiens institutionnels pour cette opération ?
Cette opération n'aurait pas pu se faire sans la participation de la ville de Digne-les-Bains, puisqu'elle est vraiment à l'origine des assises de l'ESS, avec l'Europe aussi qui nous soutient financièrement, la région sud qui est vraiment très investie dans le soutien apporté à l'économie sociale et solidaire. Et puis à côté de cela, nous avons des partenaires qui seront présents, comme la Banque des Territoires, comme l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous aurez plein d'autres acteurs par rapport au département. Bref, on a eu besoin de monter des coopérations pour faire de cette journée une totale réussite.
Rendez-vous le 24 novembre, c'est au Palais des Congrès à Digne, c'est bien ça ?
Oui, donc venez nombreux, nous serons là pour vous accueillir. Dès 11h à 11h30, une inauguration extraordinaire avec la présentation du panorama de l'ESS. N'oublions pas que notre territoire, c'est plus d'un emploi sur cinq dans l'emploi privé qui relève de l'économie sociale et solidaire. Plus de 30% au niveau du territoire Provence-Alpes-Agglo, donc un vrai levier de développement économique. Donc nous vous attendons nombreux. Vous aurez aussi la possibilité d'assister à deux tables rondes l'après-midi, une sur qu'est-ce que c'est justement être entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, suivi d'une non moins importante table ronde qui concerne l'ESS au cœur des transitions écologiques. Et pour la première fois, j'y tiens parce que nous sommes les premiers sur le territoire français à le proposer, la remise du premier prix ESS 04. Donc rendez-vous est pris, merci, venez nombreux, nous vous attendons avec impatience.
Noël, Gréou fête les Santons.
Elle annonce la période de Noël et fait appel à bien des souvenirs d'enfance. Un peuple d'argile et de plâtre a investi le centre de congrès L'Étoile, comme chaque année depuis 1994, avec bonheur. Des personnages de la crèche traditionnelle aux joyeuses déclinaisons de la Provence, c'est un univers de féerie miniature, plein de tendresse et de poésie qui est proposé aux visiteurs. Et si la tradition est vivace, les rois mages, l'âne et le bœuf, le ravi ou le boumian croisent la route d'une partie de cartes qui nous fend le cœur ou d'une mène de pétanque où rien ne manque, des boules au cochonnet et jusqu'aux fesses de Fanny. Le talent, le savoir-faire et la créativité des santonniers font des merveilles. Dernier week-end pour la foire aux santons de Gréou, profitez-en, c'est gratuit, de 14h à 18h. Je vous propose d'écouter Marie Tardif de l'office de tourisme de DLV Agglo qui a accompagné et guidé plusieurs visites au pays des santons. Marie Tardif, avec la foire aux santons à Gréou-les-Bains, on rentre de plein pied dans la période de Noël.
Oui, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un petit peu tôt puisque c'est les vacances de la Toussaint. Mais en fait, les santonniers sont déjà à pied d'œuvre pour travailler et pour créer tous leurs santons qui sont créés dans leurs ateliers. Et du coup, ils sont en plein travail. Et c'est pour ça qu'on a commencé cette foire à cette période de l'année il y a maintenant 28 ans. Les gens peuvent commencer à faire un petit peu le tour et choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur crèche.
Et la plupart des santonniers seront là d'ailleurs pour accompagner leur création.
C'est vrai que la foire aux santons, sa particularité, c'est que les stands sont tenus par des bénévoles. Mais au fur et à mesure, les santonniers viennent régulièrement, plus les week-ends, puisque c'est les jours où il y a le plus d'affluence. Donc ils viennent de temps en temps aider les bénévoles à vendre les santons, à aussi parler de leur travail et à faire des démonstrations. Chaque après-midi, normalement, il y a un santonnier ou deux qui vient faire une petite démonstration de son travail et vous pouvez venir le rencontrer et le regarder travailler.
Ils viennent de toute la région ?
Ils viennent de toute la région PACA, Sud-PACA et aussi de la région de Nîmes.
Donc ce sont des professionnels qui viennent avec des créations très différentes du très traditionnel et puis de la créativité.
Ce sont des artisans santonniers, hein. On appuie le terme d'artisans. Des artisans, même des fois, on peut même dire des artistes qui fabriquent, alors des fois depuis plusieurs générations, comme les santons Truffier-Douzon à Gréou-les-Bains, comme les santons Fouques à Aix-en-Provence, et puis d'autres qui sont là, qui ont repris des ateliers qui existaient avant ou qui les ont créés de toutes mains.
Vous accompagnez souvent des groupes ici à Gréou-les-Bains dans le cadre de cette foire aux santons. Quelle est la réaction du public ?
Le public est toujours émerveillé par cette foire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité et puis des centonniers très différents. Et puis, c'est vrai que nous, on aime, puisqu'on parle de Noël, donner une petite féerie à cette salle Jean Giono du centre de congrès L'Étoile de Gréoux-les-Bains. Et on plonge un peu les spectateurs dans une salle, un peu dans la pénombre, avec des étoiles, de la lumière un petit peu qui diffère un peu d'autres foires.
Alors bien sûr, il y a des centons, mais il y a aussi des livres et des vêtements provençaux.
Effectivement, chaque année, on a une exposition à la foire aux centons. Cette année, c'est Mireille Chopin qui nous présente le vestiaire de ses grands-parents, de ses aïeuls, et qui avait des costumes provençaux traditionnels. Il y a deux endroits où sont exposés ces costumes ici. Et d'ailleurs, elle sera là le mercredi 2 novembre, tout l'après-midi, pour expliquer au public pourquoi elle expose ses costumes et leur histoire.
Et un stand de 25 mètres de linéaire, de livres.
C'est vrai que j'ai dit 25 mètres, mais c'était pour dire qu'il était très grand cette année. Il ne fait que 6 mètres. On est partenaire avec le libraire de Gréoux-les-Bains, donc Histoire de lire, qu'on remercie toujours pour sa présence fidèle à la foire aux centons, parce qu'il est tout le temps là. Et il a toujours une sélection de livres complètement adéquate à la situation. Des livres de tradition provençale et aussi beaucoup, beaucoup d'offres pour le jeune public.
Est-ce que vous avez une idée de la fréquentation de la foire ?
Alors on l'estime depuis plusieurs années sur 10 après-midi à environ 10 000 personnes. On ne s'est pas vraiment trompé puisque l'an dernier, avec le pass sanitaire obligatoire, on a été obligé de compter les gens. Et effectivement, on était dans ces eaux-là, donc à peu près. Alors il y a plus d'affluence les week-ends et les jours fériés que les jours de semaine, mais on est à peu près sur 10 000 personnes accueillies à la foire aux centons.
Et c'est une foire qui dure jusqu'au
6 novembre. Tous les après-midi, du 28 octobre au 6 novembre, de 14h à 18h. Et puis aussi à souligner qu'il y a un petit festipitchoun, un festival pour enfants, avec des animations pour le jeune public, des spectacles, des sculptures de ballons et du maquillage.
Joyeux Noël!
Joyeux Noël!
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à la semaine prochaine.